Eh bien, bienvenue à tous. Si vous êtes ici pour la première fois, on aimerait certainement vous saluer. Et on espère que vous serez édifiés et bénis ce matin. On va juste faire une prière que Dieu puisse nous bénir ensemble, si vous voulez bien, alors qu'on se penche sur la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette belle journée. Quelle belle journée, quelle belle louange. Merci parce que nos cœurs ont déjà été touchés par ces cantiques, ces louanges. Et nous voulons élever nos cœurs à toi, Seigneur. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. La façon que tu nous protèges et tu nous gardes. Et on veut te suivre, Seigneur. On veut être avec toi. On sait qu'il n'y a pas autre place. On pense aux paroles de Pierre qui a dit, « Où irions-nous, Seigneur? » Tu as les paroles de la vérité. Tu es le Seigneur, le roi des rois. Où irions-nous? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde de plus intéressant que toi, Seigneur? Nous te louons parce qu'un jour, tu as touché nos cœurs. On te remercie parce qu'on est, comme une sœur me partageait tantôt, on est soutenu par ta grâce. C'est ta grâce qui nous tient, qui nous garde près de toi. On veut te louer, on veut te bénir. Seigneur, ce matin, on veut regarder ce message, cette portion des Écritures ensemble, et on te prie que tu ouvres nos cœurs. Tellement de choses qui se passent dans une semaine, Seigneur, et c'est facile de glisser, d'oublier tout ce que tu as fait pour nous. On veut, Seigneur, ce matin, que tu puisses saisir nos cœurs, nous rapprocher de toi, au nom de Jésus. Amen. Lundi matin, je devais rencontrer le pasteur de l'église de Chamédé, ici, au Café Crème, juste à côté. Une fois de temps en temps, à peu près trois mois, on s'appelle et on se rencontre, histoire de se garder un peu au courant. On est des vieux amis, on s'est convertis dans la même année, on s'est ajouté à la même église, à Chamédé, en 76. Depuis ce temps-là, on avait à cœur tous les deux d'aller dans l'œuvre. En même temps, on priait l'un pour l'autre et on est restés de bons amis. Il voulait venir me partager un peu son appel à quitter l'église de Chamédé et pour aller débuter une nouvelle église dans la région de Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts. Si vous voulez prier pour lui, Maurice Cloutier, il devrait partir en automne si Dieu ouvre toutes les portes et il se dirige là-bas. Et à ma grande surprise, j'ai vu quelqu'un avec lui quand je suis rentré dans le restaurant. J'ai vu un de mes bons vieux amis aussi, qui était avec lui. J'étais vraiment surpris de le voir là. C'est un très bon ami. C'est quelqu'un qu'on a emmené au Seigneur il y a plusieurs années. Je vous ai déjà partagé ça. C'est un voisin. Lorsqu'on s'est converti, on s'est marié, les et moi, puis on a déménagé à Vimont. Et puis, on était dans un développement de maison neuve. Alors, on a emménagé dans une maison juste à Vimont-là, et puis juste à côté, il y avait une maison vide, une maison neuve qui avait été construite, et elle était vide. Puis ma femme et moi, on avait prié que ce soit des chrétiens qui déménagent là, ou que ce soit des gens qui viennent au Seigneur. Et comme de fait, le Seigneur a envoyé, le Seigneur a pris, il dit, franchement, je vais t'envoyer des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne me connaissent pas encore, je veux que tu prêches l'Évangile à ces gens-là, je veux qu'ils soient sauvés. Et effectivement, Dieu a envoyé un beau couple là, juste à côté de chez nous. Et puis, on a partagé l'Évangile. Puis, à peu près un an après, ils se sont tous les deux convertis. Ils se sont évidemment joints à l'église de Chamédé où on allait. Un beau couple, très impliqué, une belle famille. Et il est devenu trésorier de l'église pendant plusieurs années, membre du conseil. Elle est devenue monitrice à l'école du dimanche. Elle est devenue responsable de l'école du dimanche. Et tout ça. Vraiment un beau couple, une belle famille. Lundi matin, il vient ici, et puis Maurice s'est levé à un moment donné pour aller commander des cafés pour nous autres, et puis il m'a regardé, il m'a dit, « Normand, si je suis ici ce matin, c'est parce que je veux te conter quelque chose, je suis en congé de maladie, c'est pour ça que je ne travaille pas aujourd'hui. » J'ai dit, « Ah oui? » Il dit, « Il y a un mois, le 28 février dernier, j'ai fait une tentative de suicide. Je suis allé dans un stationnement à Laval, dans un stationnement de Maxi. Et puis, j'ai pris une grosse bouteille de pilule, de Tylenol, puis une autre grosse bouteille de, je ne me souviens pas du nom du médicament. J'avais une grosse bouteille de whisky. j'ai tout pris les deux bouteilles au complet. Il y a un mois, là. Tout pris les deux bouteilles au complet. J'ai calé la bouteille de whisky, puis j'ai fait une prière. Il dit, Seigneur, je te demande pardon parce que ce que je vais faire. Je sais que je n'ai pas le droit d'enlever ma vie. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui l'enlève. Alors, je te demande pardon pour ce que je vais faire parce que je sais que ce n'est pas correct. Il dit, j'ai pris les clés. Normalement, là, j'avais pris toutes les pilules. Il dit, j'ai pris les clés, j'ai garoché dans la voiture parce que je ne voulais même pas prendre l'occasion, la chance d'aller retrouver les clés dans la voiture pour aller changer, si jamais je changeais d'idée. Je ne voulais pas changer d'idée. À tous les matins, je priais. J'avais mon culte personnel et je priais. Puis je disais, Seigneur, garde-moi en vie aujourd'hui. Mais ce matin-là, je n'ai pas fait cette prière-là. Je ne voulais pas vivre. J'ai tout calé ça, normalement, j'ai lancé les clés à quelque part dans la voiture. Et à un moment donné, j'ai perdu la carte. Complètement perdu la carte. Là, je suis parti, je me suis endormi. Je me suis réveillé à l'hôpital dans une chambre. Ça a l'air normal. On m'a dit qu'à un moment donné, là, il dit, j'étais inconscient, normal. Là. J'étais parti. Je me souviens d'absolument rien. J'étais inconscient. À un moment donné, j'aurais cherché les clés et j'aurais pris les clés, inconscient, dans un état tout à fait second. J'aurais parti ma voiture, je l'aurais mis sur le drive, en avant. Et si je l'avais mis sur le reculon, je mourrais. Parce qu'il y avait un gros banc de neige juste en arrière de moi, j'aurais reculé, j'aurais accroché là, puis j'aurais continué dans mon état et je serais parti. Et je l'ai mis sur le drive. Puis là, j'ai commencé à conduire. Inconscient, dans un centre d'achat. Je commençais à zigzaguer dans le stationnement du Maxi. Un homme m'a vu, a téléphoné tout de suite, a pris le cellulaire, a téléphoné la police. La police est venue, m'a pris, m'a emmené au poste de police. Probablement que les bouteilles de pilules avaient disparu en dessous des chaises. Les policiers ne semblent pas avoir vu les pilules. Ils ont juste vu une bouteille de whisky. Ils pensaient que je conduisais dans un état d'ébriété. Ils m'ont même mis une charge d'état de débriété. Et j'étais au poste de police, puis apparemment, ils m'ont questionné, ils ont fait des entrevues avec moi, puis je répondais à leurs questions. Inconscient, normalement. Là. Je me souviens de rien. À un moment donné, c'est un des policiers qui m'a vu, qui m'a regardé, puis il a dit, ce gars-là, il faudrait l'emmener à l'hôpital. Et là, ils l'ont pris, ils l'ont emmené à l'hôpital, ils ont essayé de le soigner, mais il était trop tard. Les médicaments étaient dans le sang, c'était parti, c'était là, ils ne pouvaient pas faire de lavement, rien. Il était trop tard. Ils ont mis des choses et tout ça pour essayer d'éliminer tranquillement. Mais le médecin a carrément dit, « Tu n'as pas d'affaire à vivre. Toi, là, c'est un miracle. Il était trop tard pour te sauver. Normalement, tu devrais être mort. » Et il me dit, au restaurant lundi matin, « Dieu m'a conservé la vie. Je ne sais pas pourquoi, Normand, mais j'ai hâte de voir pourquoi Dieu m'a gardé en vie. C'est qu'il a quelque chose de spécial pour moi. » Il dit, « Ce qui me fait très mal dans tout ça, Normand, entre autres, il dit, dans la chambre d'hôpital, lorsque mon fils est venu pour me visiter, je sais qu'il a son diplôme en psychologie, une maîtrise en septembre, ou je ne sais pas trop quel mois, il dit, il m'a embrassé, puis j'avais l'image dans la tête que je ne serais pas à sa remise des diplômes. Et voir mon fils avec tout son costume. Et là, évidemment, là, c'était déchirant. Il racontait un peu tout ce qu'il a vécu. On a pu voir ensemble et jaser, et j'ai dit, tu sais, faut que tu aies souffert beaucoup pour vouloir t'enlever la vie. Et là, il m'a commencé à raconter un peu ce qu'il avait vécu et tout ça. Voici un bon chrétien. Sert le Seigneur, suit le Seigneur fidèlement, impliqué dans son Église, autant lui que sa femme. un gars que tu n'aurais jamais, tu ne serais pas attendu. Je ne sais pas si ça existe, les experts pourraient nous le dire. Est-ce que ça existe un profil de suicidaire? Je ne sais pas, mais certainement ce gars-là, jamais, j'ai vu des gens qui se sont enlevés la vie. J'ai entendu parler des gens dans nos églises. J'ai entendu, il y a des gens dans nos propres églises, là, qui, j'en ai vu 5, 6 au fil des années. Mais vraiment, ce gars-là, jamais tu te serais attendu qu'il pose un geste comme ça. Un gars qui a l'air toujours comme s'il était au-dessus de ses affaires. Un gars qui faisait partie d'une troupe de comédiens quand il était plus jeune. Un drôle, quelqu'un de tellement drôle. Il me racontait même son expérience, puis il a réussi à glisser là-dedans une blague à quelque part. Un gars, il est même engagé comme animateur de touristes. Il est dans l'autobus, puis c'est lui qui anime toute la gang et tout ça. Jamais tu te serais attendu de ce gars-là qui pose un geste comme ça. Pourquoi ça arrive? D'être rendu à une place où t'es tellement, ça va, t'as tellement de difficultés personnelles. Tu regardes la vie, puis ta lecture de la vie est tellement déprimée, découragé que tu préfères. Tu as plus peur de la vie que de la mort. Quand tu es rendu à la place que tu obéis le Seigneur et tu fais tout ce que tu devrais faire. Voici un homme qui faisait vraiment. Il obéissait le Seigneur, il suivait le Seigneur. Et pourtant, rendu à une place où il est comme écrasé, découragé, puis il veut s'enlever la vie. Pourquoi ça arrive, ça? Pourquoi ça arrive à nos chrétiens, ça? Peut-être même qu'il y a des gens dans l'Église ici où vous êtes assis, où vous êtes tellement découragés, peut-être que vous ne pensez pas au suicide. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais vous vous posez la question, pourquoi ça m'arrive? Je fais tout ce que je devrais faire, je suis le Seigneur, j'obéis le Seigneur, et pourtant voici ce qui m'arrive. Je me retrouve dans des épreuves, dans des problèmes. Je ne vois pas le jour où je vais être capable de m'en sortir. Qu'est-ce qui arrive quand ça nous arrive à nous autres, les enfants de Dieu? À des enfants de Dieu qui font ce qu'ils devraient faire. Et pourtant, ça leur arrive. Des temps difficiles, tellement difficiles, c'est décourageant. On va voir quelque chose dans les Écritures, on va voir un passage dans les Écritures ce matin, où on voit justement de grandes difficultés tomber sur les disciples. Grandes difficultés qui arrivent vraiment là comme une grande surprise. Et on va voir la réaction des disciples à travers tout ça. Et ce qu'on va voir, on va faire ensemble un rappel solennel de ce que c'est que de suivre le Seigneur. J'avais la difficulté à interpréter ce que mon frère me racontait lundi matin avec ces épreuves, cette tentative de suicide. Mais lorsque j'ai étudier le passage qu'on va regarder ensemble, ça a été un rappel tellement solennel de ce que ça signifie et ça implique de suivre le Seigneur. Tournons ensemble, si vous voulez bien, dans Matthieu 8. La lecture, on va commencer au verset 18. Matthieu 8, 18. On va juste lire les versets 18 à 20 pour le moment. Et voici ce qui se passe. Matthieu 8, 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » N'importe où. Dis-le, je te suis n'importe où. Je suis prêt à te suivre. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Drôle de réponse. Parce que d'autres se sont présentés à Jésus-Christ, voulant le suivre. Et Jésus les a acceptés. Il me semble, si quelqu'un rentrait dans l'église ici aujourd'hui, il disait, arrive de nulle part, Renan Terrien voit une grande affiche, l'église de l'espoir, wow! Rentre dans l'église, puis dit, ah, moi je veux suivre le Seigneur, je veux aller partout où le Seigneur va m'envoyer. Il me semble qu'on dirait, wow, et gloire à Dieu! Amen! Non, non, Jésus ne dit pas Amen. Sa réponse est étrange. Il faut savoir que c'est un scribe. Un scribe connaît très bien les Écritures. Les scribes enseignaient la Bible aux gens. C'était eux autres qui enseignaient la Bible. Passaient 3 heures à étudier et méditer les Écritures, se retournaient de bord, enseignaient, se retournaient de bord, retournaient les Écritures. Ils maîtrisaient la loi. D'ailleurs, certaines personnes les ont appelés les avocats de l'époque. C'étaient les gens, mais la loi juive, religieuse. Ces gens-là passaient leur journée à réciter et à chanter des versets de l'Ancien Testament juste pour se rappeler tous les passages. Il y avait une question technique, légale à poser dans la communauté juive. Qui t'allais voir pour avoir la réponse biblique à ta question? C'était le scribe. Le spécialiste de la Bible. L'homme de la loi, c'était le scribe. D'ailleurs, lorsque Jésus se met à enseigner, les gens disent, il n'enseignait pas, il enseignait avec autorité, il n'enseignait pas comme les scribes. Les scribes enseignaient le peuple. C'était eux les dirigeants, dirigeaient les gens à s'approcher et à suivre Dieu. Voilà le scribe qui s'approche de Jésus. Et la réponse de Jésus est étonnante. Il ne l'accueille pas. Il met au contraire un bémol. Pourtant, qu'est-ce qu'on voit ailleurs? On voit Jésus ouvrir les portes toutes grandes. Le scribe qui connaissait la loi, connaissait les rabbins, les prêtres et tout ça, était très habitué. Il y avait plusieurs rabbins dans le temps. Même Jésus est considéré à ce stade-là, dans l'esprit du scribe, un grand rabbin. Il ne le reconnaît pas à ce stade-ci comme étant le Messie, comme plusieurs. D'ailleurs, ça va arriver plus tard où les gens vont se forger certaines idées, certains vont le refuser, etc. Ça va s'éclaircir. Le scribe savait que la façon de t'ajouter, et je pense qu'on avait déjà expliqué ça dans le passé, si tu voulais aller dans une des écoles d'un rabbin, si tu voulais devenir un disciple d'un rabbin, ce que tu faisais, parce qu'il y avait plusieurs rabbins dans le temps du Nouveau Testament, il y avait l'école de Hillel, le grand rabbin Shammai. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, j'ai étudié au pied de Gamaliel et qui était un des disciples de ce grand rabbin-là, des grands rabbins. Au pied de, voulait dire, c'est une expression juive qui voulait dire que moi, j'ai été dans une des écoles rabbiniques. Alors, lorsque tu voulais te joindre, lorsque tu trouvais un rabbin qui était un grand enseignant, t'aimais son enseignement, soit Hillel ou Shammai ou un autre, ce que tu faisais, tu voulais devenir un disciple de cette école-là, tu te mettais à suivre le rabbin pendant plusieurs jours. Tu suivais. C'est ta façon de t'inscrire à son école. Tu pouvais le suivre une journée, 2 jours, 3 jours. Si le rabbin ne se tournait pas, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de place, il ne voulait plus t'accueillir, il ne voulait rien savoir, il continuait son chemin. Là, tu avais beau continuer des jours, des semaines. S'il ne se retournait pas, ça veut dire qu'il ne voulait rien savoir. Si à un moment donné, il se retournait de bord et te répondait, « Que me voulez-vous? Qu'est-ce que tu me veux? » Là, tu répondais, « Où demeures-tu? » Et si le rabbin disait, « Bien, viens chez nous, je vais te le montrer. » Et là, il t'emmenait chez eux. Ça, c'est de dire, je t'accepte comme disciple, je vais m'investir en toi, je vais t'enseigner, etc. D'accord? Jésus fait ça avec les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau. Il y avait des gens qui le suivaient, Jean-Baptiste, puis il disait, voici l'agneau, c'est lui que vous devez suivre. Allez, suivez-le, lui. Alors, les disciples de Jean-Baptiste quittent Jean-Baptiste, s'en vont retrouver Jésus-Christ et commencent à suivre Jésus. Jésus, à un moment donné, se retourne et Jésus pose la question, « Que me voulez-vous? » Les disciples de dire, de répondre, « Où demeures-tu? » Et Jésus dit, « Venez-vous-en chez nous, je vais vous montrer ça. » Jésus les accueille, les emmène. Et c'est en train de dire, « Je vous accepte comme disciple. » Maintenant, heureusement, ce n'est pas juste un rabbin, c'est le sauveur. Donc, on ne suit pas juste un rabbin, on suit le Sauveur, le Seigneur, le Messie. Mais dans le cas du scribe, Jésus, au lieu de l'accueillir et de l'accepter, dit, ben oui, viens-t'en, aucun problème. Un autre disciple, c'est merveilleux. Non, non, non. Jésus va mettre un bémol. Et voici ce qu'il dit. Alors, le scribe dit, écoute, moi, je suis prêt à te suivre n'importe où. Avez-vous déjà fait cette prière-là? Ah, Seigneur, moi, je te donne tout. Avez-vous déjà fait ça, cette prière-là? Moi, je te donne tout. Il y a des gens qui viennent au Seigneur et vont dire, Seigneur, moi, je te donne tout. Je te donne ma vie, je te donne tout. Et probablement que vous avez fait cette prière-là. Mais là, Jésus lui répond, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel même ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Maintenant, il faut réaliser que ce verset suit le verset 16. Et le verset 16, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Verset 16, le soir, on emmenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je veux le suivre, ce gars-là. Il guérit tous les malades. Et mon ami, lui, il a l'affaire. Moi, je vais faire partie de ceux qui vont suivre Jésus parce que quand Jésus passe à quelque part, il n'y a plus de démons, les démons sont chassés et il guérit tous les malades. Il manquait de malades. Ce gars-là est puissant, fait des miracles. Moi, je veux suivre, moi, je veux aller avec ce gars-là. Pourquoi? Parce que quand tu regardes ça à la lumière du verset 16, « Wow! Le Messie est arrivé! Ça va être la gloire! On va retrouver la gloire! Or, enfin, Israël, on a retrouvé notre roi! Là, on va l'avoir! On va être victorieux, gagnant! On n'aura plus de problème avec Jésus! Il n'y en a plus de problème! » Hey! Plus de malades! Même si tu es malade, il n'y a rien là, on va voir Jésus, tu vas guérir comme ça! C'est ça que le verset 16 faisait. Le scribe voit ça. Et le scribe veut certainement suivre la parade. Hein? Mon ami, si accepter Jésus veut dire que tu ne tombes plus malade, si tout est beau, puis tu n'as plus de problème, laisse-moi te dire, lance ce message-là à la radio et à la télévision. Je peux te garantir une chose, c'est qu'il ne restera plus de place dimanche prochain. Es-tu d'accord avec moi? Mais il y a des gens qui viennent au Seigneur pour la mauvaise raison. Ils pensent qu'il n'y aura pas de problème quand tu acceptes le Seigneur. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et c'est à mon ami, là, ça va être super. Il y a un côté où c'est vrai. Parce que nous avons la vie éternelle, nous avons une relation avec Dieu. Dieu est avec nous autres, il va nous donner la force. Nous avons la puissance du Saint-Esprit avec nous. Et il y a cet élément-là qui est absolument vrai. Et nous savons que l'autre côté, nous allons entrer dans la joie, dans le bonheur pour l'éternité. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore dans l'éternité. Nous sommes rendus encore ici, dans un monde qui est très rebelle à l'Évangile. On marche contre-courant. Malheureusement, il y a bien des gens qui rentrent dans l'Assemblée, acceptent, font une profession de foi parce qu'ils veulent donner leur vie au Seigneur, pensant qu'ils vont être libérés de tous les problèmes financiers, tous les problèmes de santé, tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit? L'épreuve arrive à un moment donné, une épreuve qui ne s'attendait pas, et on les voit repartir. Et c'est ça que la Bible dit, hein, qu'il y a quatre terres, et que des fois, il y a certaines personnes qui font profession de foi, font une prière pour accepter Jésus-Christ. Et là, l'épreuve arrive, les frappe, et ils sont tellement étonnés, surpris, découragés, qu'ils abandonnent la foi carrément. Ce que Jésus est en train de dire et ce qu'il veut dire aux scribes, il est en train de dire que de me suivre, suivre le Seigneur, c'est aussi un sacrifice. Plusieurs fois dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, on voit Jésus parler de croix même, pour décrire la vie chrétienne. Il dit, écoute, c'est quelqu'un qui veut me suivre, qui prenne sa croix et me suive. Il y a cet élément-là de vie chrétienne qui est un sacrifice. Il y a des renoncements. D'ailleurs, si moindrement tu veux être bon à quelque chose, tu as des renoncements à faire. Si tu veux être un bon guitariste, à quelque part, il faut que tu renonces à certains loisirs pour t'obliger à avoir une discipline. On voit toute l'équipe ici, ils sont bien pratiqués. Il y a des heures en arrière, il y a des renoncements qu'ils ont faits pour se pratiquer, pour que ça soit bien rodé, pour que qu'on puisse être béni par leur ministère, par leur service. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des renoncements pour ça, pour que vous puissiez être béni et édifié. Tu regardes les sports, c'est la même chose. Tu vas faire un sport, tu vas être bon dans ce sport-là, tu vas faire des sacrifices, tu vas faire des renoncements, tu vas avoir des... ton horaire va changer. La vie chrétienne, Paul appelle même la vie chrétienne un combat. Il donne l'illustration de la vie chrétienne comme un soldat par moment. Et d'autres moments, il parle de course, d'athlétisme, fermier qui travaille fort dans un champ. Jamais tu vois la vie chrétienne décrite comme étant assis sur un long banc à Cancun en train de te reposer, de te faire bronzer. Oui, on a besoin d'être ça, puis Dieu merci pour des belles vacances. Ça fait du bien parce que Jésus a quand même dit à ses disciples d'aller prendre du repos, ça c'est correct, on a besoin d'être ça. Mais la vie chrétienne, elle est décrite comme un combat, de la course, des fermiers, des champs labourés, des soldats comme dans une guerre. Suivre le Seigneur, ça signifie aussi faire des sacrifices. Pas un message populaire, mais Jésus est en train de le dire au scribe, il donne l'heure juste au scribe. Il dit, écoute bien, je veux que tu saches que moi-même, où est-ce que je me dirige? J'ai plus de demeure, j'ai pas de demeure en ce moment, puis où est-ce que je me dirige? Je me dirige à la croix. Mon oreiller, l'oreiller du Seigneur, ça a été la croix. Ça a été une vie de sacrifice. Il a donné sa vie. Alors, la vie, suivre le Seigneur, c'est une vie de sacrifice. Il faut s'en attendre. Il faut être prêt à les faire. Malheureusement, on ne revoit plus le scribe après. Est-ce qu'il s'est retourné chez eux? Tout ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il a accepté le message? Difficile. Et c'est un message difficile. Même les disciples ont été découragés par moments lorsque Jésus a commencé à parler de souffrance, douleur, mort. Les disciples étaient même choqués par ça. Lorsque Jésus a même annoncé qu'il devait aller à Jérusalem, ils ont été comme choqués. Ils ont voulu changer le programme de Jésus-Christ, tout changer ça. Mais mes chers amis, suivre le Seigneur implique qu'il va y avoir des sacrifices à faire. Ça fait partie de la vie chrétienne. Il y a un autre aspect aussi de suivre le Seigneur, ce que ça veut dire. Et ça se trouve au verset 21, un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, laisse les morts ensevelir les morts. » Ouf, quelle réponse difficile, hein? Réponse dure. « Mon Père vient de mourir, il faut que j'y aille à son service funéraire. » Et Jésus lui répond, « Non, 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 laisse les morts enterrer les morts. » D'ailleurs, dans Luc, qui raconte la même histoire, on ajoute un détail que Jésus aurait dit. Il dit, « Toi, va, puis annonce le royaume de Dieu. » Maintenant, on a découvert, Barbara Bowen, qui a fait beaucoup de recherches dans les cultures et tout ça, a découvert que, dans le fond, son père n'était pas mort. C'est une expression apparemment quand tu préférais faire autre chose et quand tu n'étais pas prêt à faire certains sacrifices et tout ça, ce que tu disais, c'est « Ah, il faut que j'aille enterrer mon père. » C'est bizarre. Tu parles d'une expression. D'ailleurs, on a découvert cette expression-là jusqu'à récemment dans ces pays-là. Un missionnaire a entendu des gens parler comme ça jusqu'à récemment. « Ah, il faut que j'aille ensevelir mon père. » Vous allez dire, ben, ça n'a pas de bon sens, c'est donc bien. Non, mais il faut comprendre la culture que c'est très impoli juste de dire non. D'ailleurs, nous autres, aujourd'hui, en 2008, nous avons nos propres expressions. Hein? On ne dit pas, mais non, il faut que j'aille ensevelir mon père. Si ta femme te demande d'aller faire la vaisselle, tu ne dirais pas, ah, il faut que j'aille ensevelir mon père. Dans ce temps-là, il aurait dit ça. Croyez-le ou non, c'est presque une forme de politesse dans un sens. Parce que tu ne veux pas dire non, c'est choquant, c'est brut, c'est un manque de classe. Alors, non, il faut que j'aille enterrer mon père. Alors, les gens comprenaient, oui, c'est ça, je comprends, ouais. Ça ne te tente pas. Hein. Mais aujourd'hui, bien plus sophistiqué. On a nos expressions. Hein. Ah, je suis occupé. Hein? Ah non, non. Hé, hey, ça, j'aimerais tellement ça. Ah! Mais je suis occupé. Ça, c'est nos expressions plus sophistiquées. On a changé, on est plus évolué. Mais en gros, hein, c'est à peu près ça. Fait que le Seigneur Jésus, c'est pas compliqué. Il répond, il prend son affaire, puis il dit, non, garde. Et dans le fond, Jésus a voulu faire réaliser à ce gars-là, qui était un disciple, ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau nécessairement, mais c'est quelqu'un qui suivait le Seigneur. On l'appelle disciple. Disciple, ça veut juste dire quelqu'un qui suit le maître. Alors, il suit le maître. Alors, voici quelqu'un qui suit le Seigneur. Ah, j'ai des affaires importantes à faire. Non. Jésus, écoute-moi bien, là. Jésus le regarde dans les yeux, puis lui dit ceci. Laisse les morts ensevelir les morts. En d'autres mots, Jésus prend ce qu'il vient de dire, puis il est en train de lui faire une grande leçon profonde. Réalises-tu que la mission que je suis en train de te confier est une question de vie ou de mort spirituelle? Réalises-tu qu'il n'y a rien de plus important sur terre que la mission que je te confie? Alors, Jésus est en train de lui dire ça. Il y a des gens autour de toi qui sont morts spirituellement. Alors, écoute-moi bien, là. Va, et c'est ça que ça dit dans Luc, et annonce la parole de Dieu. Et on doit se souvenir, frères et sœurs, que de suivre le Seigneur, c'est des sacrifices, mais c'est aussi qu'on est en train de remplir une mission. Il y a une grande mission que Dieu nous a confiée, frères et sœurs. Et suivre le Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Quand tu dis « je te donne tout », tu es en train d'embrasser le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Tu ne peux pas accepter le Seigneur. Tu ne peux pas accepter Jésus juste comme Sauveur et pas Seigneur. Dieu ne se divise pas en morceaux comme ça. Non, quand tu donnes tout au Seigneur, quand tu veux suivre le Seigneur, tu suis Jésus, tu suis le Seigneur, tu embrasses sa mission aussi. Et Dieu a une mission à te confier. Mais des fois, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es en train de remplir la mission, puis il y a des gros problèmes qui te tombent dessus. Alors, qu'est-ce qui arrive pour des chrétiens qui sont en train d'embrasser cette mission-là? Ils font ce qu'ils doivent faire, comme mon chum, mon ami que j'ai vu lundi. Ils font tout ce qu'ils doivent faire. Et pourtant, par mon ami, ça frappe. Comment ça se fait? Comment expliquer quand tu obéis au Seigneur, tu fais ce que tu dois faire, tu épouses la mission, tu remplis sa mission, tu es impliqué dans l'Église de Jésus-Christ, tu mènes une vie qui est correcte, tu pries, tu lis ta Bible, la parole de Dieu, tu élèves tes enfants correctement dans la parole de Dieu, tu les emmènes à l'Église, tu fais tout ce qu'un chrétien, un disciple devrait faire et pourtant ça tombe dessus. Eh bien, voilà pourquoi tu as besoin de te souvenir de ce qui se passe par la suite. Parce que suivre le Seigneur implique une autre chose. Et c'est là que ça se passe, justement au verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Regardez bien le mot qui revient souvent, le mot « suivre ». Verset 23, les disciples le suivirent. On voit le scribe, « je suis prêt à te suivre partout où tu vas aller ». Alors, on voit le mot « suivre » qui revient tout le temps ici. Voici ce qui se passe, Jésus dit à ses disciples, on en a parlé l'autre jour, juste un peu, pour ceux qui n'étaient pas là. Jésus dit à ses disciples, « Voici, on va aller l'autre bord. » Maintenant, il faut savoir, l'autre bord, c'est le pays de Gadara. Tu n'allais pas l'autre bord pour un juif. L'autre bord, c'était le territoire de la Décapole, les sept nations. C'était le territoire des non-juifs, des païens, des gentils. D'ailleurs, les rabbins appelaient l'autre bord le royaume des ténèbres. Tu n'allais pas l'autre bord. Aucun juif ne se serait aventuré l'autre bord. C'est les démons, l'autre bord. Et comme de fait, ils arrivent l'autre bord, qu'est-ce qu'ils voient? Juste en débarquant sur la rive, il y a un gars possédé des démons qui arrive, mon ami, puis il est pire que les autres. Lui, il reste même dans les sépulcres et tout ça. Et ça pas. Les disciples disent, bien, c'est ça, on n'a pas d'affaires ici. On est dans le royaume des ténèbres. D'ailleurs, même la mer, les disciples, les Juifs, faisait de la pêche sur la mer. Flavio Joseph, un grand historien de l'époque, dit que lorsqu'il faisait beau, il y avait à peu près 200 bateaux sur cette mer. Mais il faut savoir que ces gars-là sont des experts. Ils ne s'aventuraient pas sur la mer. Ils regardaient les signes du ciel. Puis ces gars-là, là, ils étaient connaissants. Ils savaient, là. Tu n'allais pas à la pêche si le temps était mauvais. Et pourtant, Marc, qui raconte la même histoire, va ajouter un petit détail, va dire il y avait d'autres bateaux sur le lac. En d'autres mots, c'était une belle journée qui ne devait pas avoir de tempête. C'est des pros, là. Ils sont habitués, ces gars-là. Et ce qu'on apprend, c'est toute une aventure. Verset 23. Les disciples qui ne veulent pas aller l'autre bord, comme tout juif, obéissent timidement au Seigneur. Est-ce que ça arrive, ça, des fois, le Seigneur te dit quelque chose, là, te demande quelque chose, et tu es timide, tu es hésitant. Hé, il n'y a pas moi, Seigneur. Pas moi. Moi, j'étais un gars excessivement gêné. Tu ne peux même pas t'imaginer comment j'étais gêné, moi, à l'âge de 20 ans. Monsieur Héron, pasteur de Chamédie, vient me voir et dit, « Normand, j'aimerais que tu prêches en fin de semaine. » Ah ben, misère. Il n'est pas gêné. Mal de ventre, tout ce que tu veux, stress, angoisse. Ah, il est prêchant en avant. Est-ce que ça t'arrive des fois, le Seigneur te demande de faire des affaires, là, puis... T'hésites. T'es timide. Ben, les timides sont là, les disciples. Ils montaient dans la barque et les disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva de la mer une si grande tempête. Les disciples le savaient, on n'a pas l'affaire ici. Là. On s'en va à l'autre bord, Jésus avait donné la mission, on s'en va évangéliser les non-juifs, on s'en va évangéliser les gens de l'autre bord, parce qu'eux autres aussi ont besoin de l'Évangile. D'accord? Jésus l'avait dit, on s'en va prêcher, voici notre mission, on s'en va l'autre bord. Il me semble, Jésus avait fait pas mal de miracles jusqu'à ce point-ci, il avait chassé des démons, et non seulement ça, nous lisons dans un autre livre qui raconte la même histoire, juste avant, nous voyons que Jésus avait envoyé les disciples en mission, leur donnant la mission d'aller prêcher la parole de Dieu, le royaume de Dieu, et en même temps, avec, c'est écrit, leur donnant le pouvoir sur les démons. Donc, ils ont tout ce dont ils ont besoin pour affronter l'ennemi, juste au cas que l'ennemi vient donner des obstacles pour l'empêcher d'accomplir la mission que le Seigneur leur a donnée. Vois-tu? Ils ont la puissance. Dieu leur a donné le pouvoir sur les démons. Ils ont la mission, c'est clair. Ils s'en vont de l'autre côté du lac apporter le message, la parole de Dieu sur l'autre bord. En plein milieu. Voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, dormait. Il dort. T'es en arrière du bateau, ou en avant, petit coussin, couché, il dort. Fatigué quand même. Écoute, tout avant, il y a la foule, des milliers de personnes là-dessus. On voit la foule, puis il voulait justement s'éloigner un peu de la foule, mais en même temps, il veut amener l'Évangile de l'autre côté. Alors lui, il dort. Qu'est-ce que tu fais? Les disciples s'étant approchés le réveillèrent. « Hé, 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 qu'est-ce que tu fais? Grosse tempête! » Il dit, « Seigneur, sauve! On périt! Tu ne penses pas à nous autres? On est en train de mourir! Regarde, on va mourir! » L'eau commençait à rentrer dans le bateau, mais là, ça commençait à être dangereux. Là. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Il s'approche, réveille, et dit, « Seigneur, sauve! Nous périssons! » Et il leur dit, Jésus leur répond ceci, « Pourquoi avez-vous peur? » Aurais-tu eu peur, toi? Pourquoi avez-vous peur? Mais le mot peur est intéressant ici. Il y a différents mots dans l'original pour peur. C'est pas peur normale, c'est peur lâche. Pourquoi vous avez été lâche? Timide, d'ailleurs, même le mot, tu pourrais le traduire par timide. Pourquoi tu as été lâche? Pourquoi tu as été timide? Vous avez agi en lâche. Jean de peu de foi. Alors Jésus se lève, menace les vents de la mer. Et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? On croit qu'il s'agit d'une tempête démoniaque. Ce n'est pas une tempête ordinaire. C'est le même genre de tempête qui a tué les enfants de Job. Vous vous en souvenez? Le diable va voir le Seigneur, puis dit, et le Seigneur lui dit, « Où est-ce que tu étais? » Et le diable, il dit, « Ah, je viens de parcourir la terre. » Ah oui, as-tu vu? As-tu vu Job? Un homme intègre, un homme de Dieu, il fait tout, il est droit, il est correct, ce gars-là. Satan dit, « Ben oui, c'est sûr, c'est un millionnaire. » L'homme le plus riche de toute la région, hein? Très riche, puissant, il se tient aux portes de la ville, ça veut dire qu'il était rendu là, comme dans même les sphères de l'autorité, puis tout ça. Là. Ben oui, c'est sûr, c'est un millionnaire. C'est un Donald Trump, il est riche, il est multimillionnaire, il vaut une couple de milliards, c'est sûr, il va être heureux. Soir, il t'aime là, mais allez, dis ça. C'est correct. Alors, ça dit que Satan s'en va, et grande tempête. Il faisait beau, grosse tempête, et la tempête, il perd tout, il perd même ses enfants, ça a tué ses enfants. drôle de parole, Satan revient voir le Seigneur, puis le Seigneur lui dit, as-tu vu Job? Restez fidèle. Encore là, c'est un homme de Dieu, vois-tu? Satan dit, ouais, mais c'est parce que tu n'as pas touché sa santé, il va quand même bien, lui donne. Attaque sa santé, puis tu vas voir. Et Dieu lui dit ceci, pourquoi tu ne cesses pas de m'exciter à le perdre? Vois-tu ce que le diable fait? Le diable est très agressif et il veut te perdre. Réalises-tu ça? Le diable, sa mission et ce qu'il veut, c'est d'endommager l'honneur de Dieu, enlever, soustraire la gloire de Dieu en faisant perdre les enfants de Dieu qui marchent bien avec le Seigneur. Et c'est un rappel, les amis, à vous souvenir que quand il y a des épreuves qui vous frappent et que vous êtes bien découragés, n'oubliez jamais que de suivre le Seigneur, non seulement demande, ça implique des sacrifices, il y a une mission. Puis quand tu accomplis cette mission-là, crois-moi une chose, tu vas avoir les assauts de l'ennemi. Et il faut marcher, suivre le Seigneur implique que tu vas marcher par la foi, même quand l'ennemi frappe. Amen. C'est ça la leçon ici, parce que c'est diabolique ici. Comment est-ce qu'on le sait? Très intéressant. On le sait de par certains détails, comme je vous ai mentionné tantôt, il y avait d'autres bacs sur le lac, c'est pas normal. Mais non seulement ça, lorsque Jésus se lève et menace le vent, le mot menacer, dans l'original, à chaque fois qu'il se trouve sur les lèvres de Jésus, c'est toujours dans un contexte de démon. Toujours. Lorsque le mot est employé sur d'autres lèvres, ce n'est pas nécessairement une attaque du diable, mais lorsque c'est sur les lèvres de Jésus-Christ, ça a rapport avec un assaut du diable. Ici, c'est un assaut du diable. Le diable les envoie pour les faire périr parce qu'il veut les stopper, veut les arrêter à accomplir cette mission d'emmener la parole de Dieu de l'autre côté dans le territoire des non-juifs. Et qu'est-ce qui va arriver de l'autre côté? Quand Jésus arrive de l'autre côté, il y a un homme qui vient posséder des démons. Jésus le délivre de ça, a la victoire, cet homme est libéré, puis il dit, moi je veux te suivre. Et Jésus dit, non, tu n'embarqueras pas avec nous autres. Toi, tu as une mission accomplie. Ce que tu vas faire, va et annonce la parole de Dieu dans ton territoire. Seul chrétien dans toute sa ville. Le seul. Et il a fait une bonne job, mes chers amis, parce que plus tard, rendu dans Matthieu 15, lorsque Jésus revient dans le même territoire, il y a 4000 hommes qui s'en viennent, en part des femmes et des enfants, et Jésus est obligé même de faire la multiplication des pains, et il reste 7 paniers à la fin. Cette gang-là vient exactement du territoire que l'homme démoniaque venait. Est-ce que ce gars-là a prêché l'Évangile? Imagine-toi, il y avait peut-être 15 à 20 000 personnes avec les enfants, puis ça a commencé avec ce gars-là. Ça, c'est fort, hein? Pourquoi la réaction de Jésus devant les disciples? Premièrement, il venait de les préparer, il venait de leur dire leur mission. Il venait de donner plusieurs paraboles dans Marc. On voit qu'il y a plusieurs paraboles avant ça pour leur dire, écoute, on a une mission, il faut amener l'Évangile là, même dans les territoires non-juifs. On a ici le centenier qui vient de se convertir, qui n'est pas juif. La mission était claire, il fallait amener la parole de Dieu là, dans le territoire de non-juifs. La mission était claire. Les disciples auraient dû se rappeler de ça. Jésus les avait préparés. Non seulement ça, Jésus leur dit, je vous ai donné tout le pouvoir que vous aviez besoin. Je vous ai donné le pouvoir sur les démons. En d'autres mots, Jésus les reprend et se lève, puis dit, n'avez-vous pas encore la foi? Et ça, c'est le message, le noyau du passage se trouve ici. Ce qu'il manquait, les disciples, c'est ce qu'il faut avoir, nous autres. On s'entend? Oui, c'est une réprimande. Alors, les disciples manquaient de quoi? Leur foi manquait quelque chose que nous et eux ont besoin d'avoir. Et c'est quoi? C'est un rappel que nous sommes impliqués dans un combat spirituel, mais que Jésus-Christ nous a donné toute la puissance qu'on a besoin pour y faire face. Et qu'est-ce que Jacques dit? Résistez au diable et il va fuir. Les disciples avaient le genre de foi défensive, couchée. Oh, on ne sait pas quoi faire. Et Jésus est offensé par cette attitude de ses disciples qui ont vu tous les miracles qu'il a fait. Ils ont vu un paquet de miracles, des guérisons, la puissance. Et non seulement qu'ils ont vu, ils avaient cette puissance-là. En d'autres mots, Jésus leur dit, vous auriez dû régler le problème vous-même. Vous n'aviez pas besoin de moi, les gars. Vous avez toute la puissance en vous pour faire face à ces assauts. Quand les assauts arrivent, le diable vient frapper. Tu as ce que tu as besoin. Tu as la puissance de Dieu pour y faire face. Imagine-toi. Et lorsque le diable vient, et mon ami, il peut s'acharner sur toi, comme Job. Ça peut arriver. Même la femme de Job dit, écoute, là, ça n'a pas de bon sens, regarde ce que tu as de l'air. Tu fais toute la volonté de Dieu. Maudis donc Dieu, laisse-les aller. Pourquoi tu aimes Dieu, puis tu continues à aimer Dieu, tu continues à le servir, regarde ce que tu as de l'air. Tu as tout perdu, tu as perdu le compte en banque, zéro, il n'y a plus rien. Et Job a resté fidèle, collé au Seigneur, puis l'honorer dans cet état-là. Vois-tu, c'est ça le message. Suivre le Seigneur, ça implique qu'il va y avoir des sacrifices à faire. Ça implique une mission. Il y a une mission à embrasser, puis on se lève et on y va. Mais ça implique aussi que lorsque tu remplis cette mission-là, lorsque Dieu te confie une tâche, lorsque Dieu te confie, et nous avons tous eu une mission à rencontrer. Nous avons reçu des dons spirituels. Dieu dit dans 1 Pierre 4, 10, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Nous avons tous été impliqués dans cette mission-là de voir l'œuvre de Dieu grandir. Mais ça va arriver lorsque tu vas t'impliquer, les amis, que le diable va peut-être s'acharner, il va y avoir des assauts. Et Paul dit que nous sommes impliqués dans une guerre spirituelle. Et c'est pour ça qu'il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit, il y a une guerre spirituelle et on est impliqués là-dedans. Et des fois, le diable va t'envoyer des surprises que tu ne t'attends même pas pour essayer de te décourager, que tu lances la serviette, tu dis, hey, ça n'a pas de bon sens. Je fais tout ce que je devrais faire, puis ça m'arrive. Mais rappelle-toi qu'il y a une guerre spirituelle ici. Et le diable veut te perdre. Un de mes amis qui était pasteur il y a plusieurs années, c'est un ami d'enfance, on était élevés ensemble, on se tenait ensemble, c'était un de mes meilleurs amis. Ça a été mon meilleur ami. Et on jouait au football ensemble dans la même équipe et tout ça. Et vraiment un bon bonhomme. Et j'étais tellement content lorsque j'ai vu ce gars-là aller dans l'œuvre puis devenir un pasteur d'une église. 14 ans, marié, impliqué dans l'œuvre. Puis après 14 ans, il se lève. Sa femme se lève, elle dit, moi, je suis plus capable. S'en va. Parti, sa femme l'a laissé. Alors évidemment, ça a eu tout un paquet de répercussions. Et je ne blâme pas la femme. C'est complexe, la situation. Je ne veux pas aborder ça maintenant, mais on dit qu'un couple, ça, il faut connaître toute l'histoire. Et je ne blâme pas la femme. Je ne suis pas en train de lancer la pierre à elle. Je veux juste vous dire ceci, c'est qu'elle dit, je ne suis plus capable. Alors elle s'en va, elle quitte. Moi, je crois que le diable voulait les décourager. Même s'il y avait des choses difficiles dans le couple, ça se travaillait. C'était des choses qui se travaillaient. Je sais, je connais très bien l'histoire. Il y a des choses qui sont très difficiles à réconcilier, mais c'est une situation qui ça se travaillait. Et la femme est partie, et évidemment, lui a abandonné le ministère. Malheureusement, il a quitté le Seigneur aussi. Tout abandonné, il n'y a plus aucune église. Il était venu à notre église, il avait déménagé, il était venu à notre église à Lavalesse pour un temps. On pensait leur échapper. On sortait avec lui toutes les semaines, on allait prendre un café ensemble et essayer de le soutenir, l'encourager, parce que c'était difficile, parce qu'il y avait un changement. Écoute, il perd sa femme, il s'en attendait pas pantoute, c'était vraiment une surprise, il aurait dû le voir, parce que quand même, il y avait des patterns, là, puis tout ça. Et je veux être délicat ici, hein, parce que je sais qu'il y a des gens ici qui vous avez vécu des divorces et tout ça, et je veux pas que vous interprétiez des paroles que je vais dire comme si c'était facile et gratuit. D'accord? Je ne veux pas vous offenser. Je sais qu'il y a des situations très délicates, mais je ne veux pas rentrer là-dedans en ce moment. Je veux juste raconter l'histoire ici, ce qui se passe. Et malheureusement, cette épreuve d'un perdre son épouse, perdre le ministère aussi, tout ça a vraiment, là, comme ça a été comme tellement décourageant pour lui qu'il a tout abandonné. Et je crois vraiment que le diable est allé là-dedans pour tout détruire. C'était un gars, là, que, honnêtement, tellement doué que ce gars-là, je me suis dit, moi, là, ce gars-là, se consacrer, ça va devenir un autre Billy Graham. C'était incroyable, le talent, un homme doué. Et ça fait 10 ans. Malheureusement, il est tombé dans le monde. Et 10 ans viennent de passer. Et il a fait pas mal tout ce qu'il voulait pendant les 10 ans. Vraiment, là, littéralement, tout ce qu'il voulait. Il a vraiment tombé dans le monde, comme mur à mur, là, puis tout ce que tu peux t'imaginer. Let's go. C'est le party. 10 ans. Mais ce que je veux me souvenir aussi, c'est que suivre le Seigneur a son lot de sacrifices à faire. Il y a une mission à embrasser. Il y a un combat spirituel. Je veux me souvenir aussi que des fois, là-dedans, dans ces combats-là, des fois, tu vas tomber. Et ce qui est merveilleux de se souvenir, c'est que Dieu est gracieux. Ce gars-là, pendant 10 ans, ne m'appelle pas du tout. Il m'appelle pas. D'ailleurs, oui, il m'a appelé une fois. Ça a été il y a quelques années, il n'y a pas tellement longtemps, où il me demandait de le marier avec une non-chrétienne, une femme que je ne connaissais pas, tout ça, et il a bien vu mon hésitation. J'étais tout mal à l'aise. Je lui ai dit, sais-tu, je ne peux pas vraiment faire ça. Et il ne m'a pas rappelé depuis ce temps-là. Vraiment, ça n'a comme pas aimé ma réponse. C'est sûr, je comprends. Et là, hier, je suis à Gatineau en train d'enseigner. Et là, il y a un frère à l'heure du dîner qui vient me voir. Il dit, hey, c'est normal. Il dit, j'ai eu des nouvelles. Il nomme le nom du gars. Il dit, j'ai eu des nouvelles. J'ai dit, t'as eu des nouvelles? Ça fait 10 ans. Ah oui, oui. Et puis, il y avait plusieurs membres du conseil de l'église de Gatineau qui me disaient, oui, puis ils l'ont bien connu. Puis là, il dit, oui, oui. Il dit, puis il a dit au téléphone, il dit, sais-tu, j'ai perdu mon emploi, j'avais une business, j'ai tout perdu. J'ai la femme, il dit, t'es-tu marié avec? Non, non, j'ai eu des affaires, des pépins, puis tout, je suis pas avec elle non plus. J'ai pas de femme, pas de business. Tout perdu, j'ai plus rien. Honnêtement, j'ai plus rien, puis j'ai des difficultés même. J'ai plus rien. Vois-tu, dans le fond, on s'aperçoit que dans le monde aussi, c'est un combat. C'est un combat pareil. C'est pas plus facile dans le monde, là. Vous savez, hein, votre travail. Mais il me semble que je veux faire partie, moi, de la bonne bataille. Tu comprends-tu? C'est un combat dans le monde, c'est un combat dans le Seigneur aussi. Mais suivre le Seigneur, c'est difficile. Mais bon, nous, on sait qu'on a la victoire, puis on s'en va sur le bon chemin. Puis on sait qu'on va gagner. Puis on sait quel drapeau va lever à la fin du combat, puis la guerre. Amen. Heureusement, lorsque tu tombes, Dieu est gracieux. Puis quand tu es un enfant de Dieu, Dieu est gracieux. Puis il a dit au téléphone. Il ne m'a pas appelé. Hein. J'ai hâte qu'il m'appelle, mais il ne m'a pas appelé. Là. Il n'est pas prêt. Mais il a dit, sais-tu, je regarde mes 10 ans et tout ça, puis il dit, je pense que je devrais retourner à l'église. 10 ans. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Hein? Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est un combat spirituel. Mais Jésus est quand même dans la bac avec nous autres. Hein? Puis à un moment donné, quand il sent qu'il est en train de perdre la carte, il va se lever et il prend le contrôle. Gloire à Dieu. Hein? Alors, est-ce qu'on peut tout donner au Seigneur notre vie? Oui, on peut, parce qu'on a Jésus avec dans la barque et il sait le combat qu'on vit. Prions le Seigneur. Pendant que vous avez la tête penchée, j'aimerais que vous puissiez réfléchir aux paroles du chant que vous allez entendre de Luc Dumont qui s'intitule « Je te donne tout ». Réfléchissez et que ce soit votre prière, d'accord? Gardez la tête courbée, fermez les yeux et méditez sur ces paroles.